Ce soir, j'aimerais vous parler de Love and Friendship de Witt Stillman, mais dans le contexte des films de Jane Austen portés à l'écran. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Trudy Bolter et j'ai été très longtemps chargée de cours de cinéma en doctorat en art du spectacle à Bordeaux 3. Mais mon identité principale était professeure des universités à Sciences Po. Et je suis professeure émérite et aussi, last but not least, je suis l'animatrice de cette série de ciné-conférences Utopia Mola, où dans une petite conférence, on étudie sans faire quelque chose d'universitaire, mais j'espère que ça vous intéressera, un film qui est actuellement visible au cinéma L'Utopia. Il arrive que j'ai eu l'honneur et le plaisir la semaine dernière donc, de présenter la première projection du film. Donc, ce film est de 2016, adapté par Stillman d'une nouvelle de 80 pages, Lady Susan, composée 200 ans plus tôt, probablement vers 1794, par Jane Austen. Stillman utilise le nom d'une œuvre de jeunesse encore plus ancienne pour titrer à sa façon le film, qui est très considérablement stillmanisé, et donc son rapport avec une œuvre authentique de cet auteur très aimé et bien connu par des lecteurs et des ciné-spectateurs nombreux. Le livre de Jane Austen, née en 1775 et morte en 1817, ne fut publié que bien après sa mort, en 1871, et n'est pas, comme la plupart de ses romans, servant de base pour un film, un grand classique. Les adaptations des romans de Jane Austen doivent leur popularité en grande partie à la présence dans chaque film de la trame de l'œuvre choisie. On va voir une autre version d'Orgueil et Préjugé, une autre version encore d'Emma, en retrouvant à chaque fois les éléments que l'on a appréciés dans le roman, reconditionnés, mais toujours reconnaissables. Or, dans ce cas, Stillman se permet de rajouter des éléments au texte de Jane Austen, créant une sorte d'hybride, s'appropriant l'histoire. De premier abord, le look du film diffère de tous les autres. Abandonnant le style régence, appelé directoire en France, je pense, les chaussons plats, les robes en mousseline blanche, les petits bonnets, les caracos. Ce n'est pas encore l'époque victorienne. Aucun roman de Jane Austen ne le représente, car Victoria ne monte pas sur le trône avant 1837 et n'est certainement pas encore l'ogre de bienséance que l'on identifie plus tard. Nous sommes carrément au XVIIIe siècle, ce qui semble souligner l'inspiration probablement subie par Jane Austen des liaisons dangereuses de Chauderlot de Laclos que la cousine de Jane Austen, Eliza de Feuillide, veuve d'un aristocrate guillotiné, aurait pu la faire connaître si, francophone, elle n'avait pas découvert toute seule ce best-seller de l'époque, 1782, dont il existait, de toute manière, une traduction anglaise depuis 1784. Lady Susan est-elle une sorte de Valmont féminin? Mais le vicomte de Valmont ne manquait pas de moyens. Et pour Lady Susan, la chasse à l'homme, riche son temps, est vitale, presque une question de vie et de mort. Tout comme d'ailleurs cette poursuite est cruciale pour des héroïnes moins détestables, plus respectables et sincères de Jane Austen, les filles Bennet ou les filles Dashwood, par exemple. L'œuvre de Witt Stillman, née en 1952, consiste en tout et pour tout à six films, dont un premier trio plus ou moins autobiographique, Metropolitan, 1990, nominé pour l'Oscar du meilleur scénario, Barcelona, 1994, Les derniers jours du disco, 1998, Damsels in Distress, 2011, and The Cosmopolitans, 2014, pilote pour une série à être produite par Amazon. Love and Friendship, le film de ce soir, est le seul de ces films à inclure des personnages du même âge que Stillman lui-même dont tous les films traitent de la formation de couples de jeunes personnes de bonne famille à la recherche de l'amour. En ceci, il se rapproche bien sûr des romans de Jane Austen, dont les œuvres ont été maintes fois adaptées par le cinéma et la télévision, surtout anglais, et surtout depuis les 20 dernières années. La question, c'est de savoir pourquoi. Car en 95, on se rappelle, un film appelé Clueless d'Amy Heckerlin était la transposition à Beverly Hills du roman de Jane Austen, Emma, et la même année, l'adaptation filmée de Raison et Sentiment dirigée par Ang Lee, sans oublier la mini-série en 6 épisodes produite par la BBC dirigée par Simon Langton. Il y avait aussi en 1996, une version américaine de Emma avec Gwyneth Paltrow dans le rôle principal et une autre version faite pour la télévision britannique la même année faisait de Kate Beckinsale, Lady Susan du film de Stillman, la star. La mode pour les adaptations de Jane Austen s'est diversifiée jusqu'à inclure, entre autres, en 2004, une version Bollywood, Pride and Prejudice, et en 2007, une série paralittéraire nourrie d'un mélange d'éléments sortis de l'œuvre et de la vie de Jane Austen. Becoming Jane, par exemple, dans laquelle l'auteur Jane et son admiratrice du XXe siècle échangent leurs situations et leurs époques, de telle sorte que la jeune fille contemporaine choisit de remonter le temps pour faire sa vie avec Darcy. Et dans cette mouvance, on trouve le journal de Bridget Jones, adapté du même roman, sans oublier, actuellement visible sur certains écrans, Orgueil et préjugés avec Zombie, un film de 2015 qui est plus regardable que l'on pourrait a priori le croire. Donc les films de Stillman qu'il écrit et dirige sont littéraires, car le dialogue y joue un très grand rôle. Les jeunes protagonistes de Stillman, vus par grands ou petits groupes sans qu'il y ait de héros se distinguant beaucoup des autres, se parlent énormément. Ces conversations sont toute la base du scénario du premier film de Stillman, grande réussite tournée pour $300,000, gagnant plus de 10 fois plus. Metropolitan nous montrant des jeunes fréquentant des bals de débutantes se rejoignant chez l'une d'elles, Sally Fowler, pour des after-parties conversationnelles. Il parle un peu de Jane Austen et auteur du roman favori de l'une des personnages, rejeté par un autre comme étant moins intéressant à lire que la critique littéraire la concernant. C'est des étudiants dans les grandes universités. Les personnages de Stillman dans ses 4 premiers films appartiennent pour la plupart à la même classe sociale, les preppies, fréquentant les bonnes écoles et universités privées comme Harvard. C'est un milieu que nous connaissons à travers les romans de F. Scott Fitzgerald ou plus récemment dans quelques films comme Cercle de poètes disparus ou Good Will Hunting ou Love Story. Peut-être la plus grande découverte du film Metropolitan, c'est que l'un des garçons dit « Et si on ne s'appelait plus Preppy ?» Moi, je propose qu'on s'appelle UHB, Urban Haute Bourgeoisie. Et ça, c'est peut-être la réplique la plus spirituelle du film. Le film, ça veut dire Love and Friendship. Donc, c'est le premier film en costume, premier film dont le décor n'est pas sur la côte est des États-Unis, première adaptation. Il est l'auteur des scénarios des autres films. En même temps que sort son film, Stillman publie sa réécriture du roman de Jane Austen, qui l'a beaucoup changé et qui correspond bien au scénario du film. D'une manière comparable, il a publié en 2000 une sorte de roman basé sur le scénario des derniers jours du disco. Ces romans adaptent ses propres films, ce qui est l'inverse de l'ordre habituel d'adaptation. Jane Austen arrête son roman, je parle de Lady Susan, au moment où Lady Susan épouse Sir James Martin. les points ne sont pas sur les i. La relation avec Mannering suite à ce mariage n'est pas précisée. La grossesse de Lady Susan, encore moins. La conclusion du livre est présentée dans un court chapitre à la troisième personne où l'auteur décrit un Réginald de Courcy, vous savez, le jeune homme, dépité, souffrant d'un cœur brisé, rentrant chez lui, où sa mère et sa sœur espèrent que le contact avec Frédéric va l'inciter à être amoureux d'elle plutôt que de sa mère et à l'épouser, ce qui serait normal. Le commentaire de l'auteur, cette opération devrait pouvoir se réaliser dans une année. L'élément perturbateur du monde fictionnel, Lady Susan, en est éjecté et elle arrête même d'écrire à sa fille. Alors, ça, dans les changements faits par Whit Stillman, le personnage d'Alicia n'est pas chez Jane Austen une Américaine. Et le délicieux personnage de Sir James Martin, si bien écrit et joué. Autre point intéressant, Chloé Sevigny interprète du rôle d'Alicia et Kate Beckinsale, Lady Susan, ont joué chez Whit Stillman, un couple d'amis travaillant dans une maison d'édition dans les derniers jours du disco. Beckinsale, très cynique, y exerce une influence négative sur son amie plus innocente. Cette récurrence d'actrices fait apparaître le film comme davantage inclus dans l'œuvre et dans ce que l'on pourrait appeler le mythe d'auteur ou récit de création appartenant à Stillman plutôt qu'à celui de Jane Austen. Stillman invente un personnage pour son roman qui fait sortir en même temps que le film. Le personnage, c'est le neveu de Sir James Martin, au nom exotique improbable Rufus Martin Colonna de Cesare Rocca, qui souhaite rétablir la réputation de son oncle Sir James Martin et sa tante Lady Susan, réécrivant à cette fin le roman de Jane Austen qu'il dénigre en l'appelant l'auteur vieille fille. Le volume de Stillman inclut aussi le véritable texte austenien commenté par ce faux neveu dans des notes de bas de page. Stillman commente par son personnage parodique, le neveu de Jane Austen, James Edward Austen Lee, qui avait publié une biographie de sa tante en 1870 et fait connaître du public Lady Susan en 1871. La démarche de Whit Stillman est inhabituelle et fait que le plaisir du cinéphile est complètement différent de celui d'un amateur d'adaptation et de remake à toute évidence nombreux qui raffole de la quantité énorme d'adaptation de Jane Austen. On dirait qu'il y a un intérêt inépuisable pour les différentes mises en scène, les interprétations nouvelles, les variations sur les thèmes bien connus qui sont avant tout ceux des trois grands romans, Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés et Emma. Voir une nouvelle star dans un rôle bien connu, la joie de se replonger dans une histoire bien familière, reconditionnée par une nouvelle équipe et pour un acteur, l'opportunité d'obtenir ses galons en proposant un nouveau Darcy ou Monsieur Knightley ou une nouvelle Emma. Le phénomène Jane Austen au cinéma semble inépuisable, mais son essor rapide dans les 20 dernières années pose la question de savoir pourquoi, maintenant et pas avant. Est-ce que les améliorations techniques du cinéma et de la télévision et le rapprochement de la qualité de leurs produits en est responsable? Est-ce que cela correspond à l'essor de la rom-com, la comédie sentimentale à l'eau de rose? Car ainsi sont les romans de Jane Austen, bien que très perfectionnés et enrichis par l'ironie, la psychologie et l'humour de cet auteur. Certains classent ces films dans la catégorie de films patrimoniaux ou Heritage Films, célébrant la beauté de l'Angleterre, son architecture, le charme de ses traditions ancestrales, définition qui contient un avertissement politique en rehaussant la beauté d'une époque révolue, époque bien moins démocratique et moins favorable aux femmes que le nôtre, Le film semble donner un message selon lequel le bon vieux temps était meilleur que le présent, encourageant le spectateur d'adapter une position politique conservatrice, sinon réactionnaire, rappelant celle de Madame Thatcher, parce que c'est à l'époque de Madame Thatcher qu'on a commencé à beaucoup financer les musées, les sites patrimoniaux, pour en faire des éléments attirant les touristes. Ils s'attachent aussi à ces films le côté promotionnel. Ils incitent au tourisme dans les îles britanniques. Ce côté patrimonial est bien montré dans un extrait assez long de la version d'Emma de 1996 avec Kate Beckinsale, Lady Susan Postillon, dans le rôle titre. Emma, vous vous en rappelez, c'est la jeune fille imaginative et un peu snob qui essaie de trouver pour l'une de ses amies, son naissance, un parti meilleur que le fermier qu'il adore. En fin de compte, elle se rend compte que l'amour de sa vie, l'ami de famille, M. Knightley, qui essaie constamment à la reprendre sur ses faux pas, erreurs de goût, de défaillance à la gentillesse, qui l'a tenue dans ses bras quand elle n'avait que 3 semaines. Il est comme par hasard, en dehors de ses qualités morales, et séduisant, et le gentilhomme le plus riche des environs. Dans un des interviews, Whit Stillman dit qu'en faisant le scénario, le rôle de Frederica, c'est-à-dire la fille de Lady Susan, est la clé. Bon, Jane Austen néglige beaucoup ce personnage, mais il faut dire qu'elle a quand même un certain caractère. Incolore dans le texte d'origine, mais plus complexe dans l'œuvre de Stillman. Elle est beaucoup moins passive qu'elle ne paraît. Elle s'organise pour faire appel à l'amant de sa mère, Réginald de Courcy, pour lui demander de l'aide dans sa bataille contre le projet de la marier à Sir James Martin, chéri par sa mère. Par 2 fois, elle annonce son intention de travailler plutôt que d'épouser un homme si sot. Dans une fin de film qui ne correspond à rien dans le roman de Jane Austen, une scène de mariage, Stillman nous montre Réginald qui dit un poème composé à l'honneur de sa jeune épouse. Et Frederica chante. On a su qu'elle prenait des leçons. On a vu ses oncles l'appeler de différents noms d'oiseaux chanteurs, mais on constate à la fin du film qu'elle sait réellement chanter. Effectivement, elle aurait pu chanter ou devenir professeure de chant, sinon cantatrice. La fin du film ne nous suggère pas seulement que l'amour s'exprime à travers l'art. Ce qu'elle distingue du talent pour l'artifice et la manipulation que possède Lady Susan, qui est louée par tout le monde pour son intelligence, mais aussi qu'il y a chez Frédéric le germe d'un nouveau type de femme potentiellement indépendante et capable de construire une vie sur ses propres moyens. Cela semble donner une nouvelle note ou sonner une nouvelle note dans le canon des adaptations cinématographiques de l'œuvre de Jane Austen.